Salut, salut, salut. Vous êtes dans l'émission Au fond près du radiateur comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. Voilà, je commence cette émission en vous donnant les quelques adresses utiles. C'est le www.aufondprèsduradiateur.fr pour notre site internet si vous voulez télécharger nos émissions, réécouter les anciennes et voir les quelques trucs qu'on met sur le site qui accompagnent nos émissions. Et puis il y a une adresse mail aussi où vous pouvez nous envoyer toutes vos infos, vos communiqués, vos contre-infos, vos musiques, vos critiques, tout un tas de choses. C'est aufondprèsduradiateur@no-log.org. Voilà, et puis bah, on va présenter tout le monde qui est là ce soir. Alors d'abord sur le plateau, il y a Tiffen.
Salut, salut.
Il y a Mouloud.
Bonsoir.
Il y a Raph.
Salut.
Un gros big up à la technique dans le bocal, il y a Mado et Meto.
Salut, salut.
Salut.
Et puis bah, on passe un grand bonjour aux absents aussi. Il y a Mathéo hein, qui n'est pas là ce soir, et puis bah, à Tom et Sarah à qui on fait un grand bonjour. Voilà, alors le sommaire de cette émission, ce soir, on va vous parler de plusieurs choses. Dans une première partie, on va parler donc des crimes racistes et sécuritaires qu'on a l'habitude d'aborder dans cette émission. On va revenir sur trois affaires qui ont fait un peu l'actualité ces derniers jours. Donc on va d'abord parler de l'affaire de Wissam El Yamni, qui est décédé le 9 janvier à Clermont-Ferrand après son contrôle de police le 1er janvier. Et puis... on va parler aussi de l'affaire de Ali Ziri, ce vieux retraité algérien de 69 ans qui était décédé en juin 2009 à Argenteuil. Et on reviendra aussi sur la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois en octobre 2005, puisque les policiers, sur cette affaire, en tout cas on le saura dans quelques jours, c'est d'accorder un non-lieu donc aux policiers dans cette affaire. En tout cas, on y reviendra dans cette émission. Dans une deuxième partie, on parlera aussi de ce qui se passe à Saint-Denis et surtout des luttes autour du logement. On reviendra sur le cas particulier en fait d'un hôtel et de son proprio qui est en conflit avec ses habitants. Et donc, Raph a pris pas mal de sons lors d'une mobilisation récente. On écoutera ça et puis il nous en parlera. On reviendra peut-être éventuellement, si on a des nouvelles d'ici là, sur PSA, la lutte des ouvriers de PSA Aulnay, puisque la journée a été agitée. Apparemment, il devait se tenir une assemblée générale aujourd'hui sur le site. Donc on essaiera de voir si un camarade pourra nous joindre par téléphone d'ici à la fin de l'émission. Et puis on reviendra aussi en fin d'émission sur un peu ce qui se passe sur la ZAD, donc à Notre-Dame-des-Landes, le terrain occupé donc contre la construction de l'aéroport Grand Ouest à côté de Nantes. On reviendra un peu sur tout ce qui se passe là-bas en attendant de vous parler quand même plus précisément de ce qui s'y passe justement. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, quelques petites annonces en ce qui concerne les mobilisations à venir. Voilà, on va commencer cette émission tout doucement en se faisant une petite pause musicale à l'ancienne. On écoute ça tout de suite et on revient au fond près du radiateur. Yeah. What you heard about me, but a lot of chicks be hating on me, and what you see is what you're getting with me, and don't you know that I'm the one and only queen. I got bitches waiting, and I got haters hating, so what, I'm Whiskey Dog, we still relating, repay all them Bronx and Queens, hustlers with big money dreams, be out about to change the scene, keep smoking that green, I'm not sporting the bling, but I'ma do what I gotta do to get that paper, strippers, stuck broads, my sophisticated chicks, even birds that be licking the clip, I know you're feeling it, shit. I'll be the one in the club, sipping box straight up. I'm with my thugs, we get nothing but love. And I'ma show you how I get down. Still popping locks, popping tops, hustling harder than blocks. Got a flow that's untouchable. Oh, you don't know? Me and Primo go together like Dom and Besso. We make a marriage on tracks that's off the rocker. Ain't a chick in this game that could spit it hotter. Beata is the illest. Beata is the illest. Beata is the illest. Beata is the illest. So you like how the flow ride, Rooski till the day I die. And I got my ends right, why you hating? I'm dodging phonies and I'm doubling G's. I've been styling since you had thick cuffs in your leaves. Keep stuffing them trees.
Z in them easy, slowly in the car seat. When he thought I'd retire, give him more fire. Running these streets like I'm running these beats. And I know that these chicks don't wanna compete. So that means I won't slip up, yeah, I can't catch up. And that's a wrap, got my E-stash in the truck. Platinum tracks, spitting for that platinum plaque. Display pros and run hoes like Nordic track. Neither you nor them can expose that. The way I make you feel what I'm going through, yeah, I ain't been through that. Just try and keep up and sing the shit with me. Beata is the illest. Beata is the illest. Beata is the illest. Beata is the illest. From the USSR to the US CDs and vinyls, Beata's gonna be extra large, huh? All of these beats and my flow attached. We about to go black when Primo gets in the track. In fact, I'ma show you where the fuck it's at. Be careful what you ask for, cause you just might get it. Some chicks in this game, they might just regret it. When I'm coming through, baby girl's gonna set it. B-Y to the ATA, Beata, mommy, see, I don't play. I come correct with my shit, I keeps it crunk when I spit. It's all irrelevant, now the chick running for president. Oh, I don't know what you heard about me. See, me in the club chilling VIP. Oh, on the grind to get where I gotta be. Oh, I'm repping Brooklyn to the NYC. Yeah, yeah. That Brooklyn bitch, Brighton Beach bitch, Beata is the illest. Coney Island bitch, Beata is the illest. Beata is the illest. Beata is the illest. B-Y to the ATA. Beata is the illest. Primo, let them know Beata is the illest. Beata is the illest. Biggie Smalls is the illest. Yo, that Brooklyn shit is in the water.
Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Et donc on vient de s'écouter un son de Beata. Et c'était sur une prod de DJ Première. Voilà, et ça fait plaisir de passer ça en début d'émission. Donc on va enchaîner tout de suite sur le premier thème de cette soirée, qui va être donc le thème large de nous, ce qu'on appelle les crimes racistes et sécuritaires, évidemment pour pas dire bavure policière, terme encore largement employé par les médias et entre guillemets l'opinion publique, qui essaye de mettre voilà en mots la violence policière que des gens subissent des fois au quotidien. Pour nous, c'est plus que des bavures. Hein. Des bavures, ça arrive des fois vraiment de temps en temps. Là, au rythme où on en est, c'est presque devenu courant comme fait lorsque quelqu'un se fait arrêter, bah, qu'il subisse des violences et qui parfois entraîne la mort. En tout cas, c'est le cas de Wissam El-Yamni, qui a été donc interpellé dans la nuit du 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. On va un peu revenir sur son histoire aujourd'hui, puisque le frère de Wissam El-Yamni, donc Farid, était l'invité de l'Actu des luttes sur FPP il y a quelques jours de ça, et nous a livré son témoignage. Donc c'est un témoignage qu'on entend trop peu dans les médias officiels, puisqu'il revient un peu sur l'histoire de Wissam, sur son interpellation lors de la soirée du 1er janvier, et il remet un peu les choses à leur place quant à tout ce qu'on a entendu dire dans les médias, et surtout un peu redonner la dignité à cette personne, puisque à chaque fois c'est toujours la même chose quand il se passe ce genre d'histoire. Non seulement les versions médiatiques sont des fois et même souvent faussées, en plus on salit les personnes qui se font interpeller par ces policiers, puisque c'est normal aujourd'hui que des policiers interpellent des personnes. Et c'est vrai que ces personnes sont toujours vues comme des dangereux délinquants, des dealers, des trafiquants, des je sais pas quoi. En tout cas, voilà, le frère de Wissam a voulu redonner un peu sa dignité à Wissam, et on va l'écouter à travers ce témoignage. Donc voilà, qui dure quelques minutes, on s'écoute ça tout de suite au fond près du radiateur.
Au niveau des faits, ce qui s'est passé le 1er janvier 2012, pendant la nuit du Nouvel An, donc c'était à 3h du matin. Voilà, pendant que tout le monde faisait la fête, pendant que tout le monde n'était pas vraiment sain d'esprit, mon frère a jeté une pierre sur une voiture de police, puis se met à courir. C'était con, c'était bête. Donc il se fait interpeller, devant l'école où il était d'ailleurs, où il avait remporté de nombreux crosses. Il a toujours terminé premier au niveau des crosses par deux policiers. L'interpellation s'est faite rapidement, moins de 30 secondes. Moins 30 secondes, il y a tes témoins, il y a tout le monde. Donc lorsque les policiers sont arrivés, ils ont tout de suite mis un coup de poing à mon frère. Il était au sol, ils l'ont menotté et ils ont appelé les autres voitures de police. 10 voitures de police sont arrivées et puis ils l'ont lynché en mettant de la musique, comme ça se fait souvent dans la culture policière, dans de nombreuses affaires, et c'est ce qu'ils font. Ils mettent de la musique et ils tapent pour s'amuser, oui. Donc après, les témoins disent d'arrêter, ils le mettent dans la voiture, ça aurait pu s'arrêter là. Juste un petit truc, il avait 5 fractures. Il avait plusieurs fractures aux côtes, des fractures au visage, 25 policiers, dont le capitaine de police. Donc c'était et des policiers qui, visiblement, d'après les témoins, étaient sous. Parce qu'il y a des témoins qui disent qu'ils étaient tellement sous qu'ils mettaient des coups de poing complètement bidons. Donc ensuite, il est transporté dans la voiture. Et puis, il arrive au commissariat. Il tombe dans le coma. Voilà. Mon frère n'avait jamais de problème cardiaque. Dans la famille, il n'y en a pas, aucun problème. C'était un jeune homme assez sportif. Et c'était un jeune homme qui, je vous le dis, qui n'était jamais malade, qui était toujours joyeux, qui avait une santé de fer. Il n'était jamais malade. Mmh. Et en termes d'endurance, il faisait... la piscine olympique sous l'eau, c'était quelqu'un qui résistait vraiment. D'ailleurs, il a essayé de résister et qui aimait la vie. Donc après, il tombe dans le coma et puis le 9 janvier, il décède. Voilà.
Et comment vous avez été tenu au courant? Comment on vous a présenté l'affaire?
Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils sont partis voir la veuve, la femme de Wissam, qui maintenant... Et à l'étranger, il refuse de venir en France, qui est dégoûté par la France complètement. Ils viennent lui dire qu'il est à l'hôpital, qu'il y a une bagarre, qu'ils l'ont retrouvé, il est à l'hôpital, mais qu'ils ne peuvent pas y aller maintenant et qu'ils l'appelleront. Voilà, donc déjà, avec beaucoup de suffisance, ils viennent la voir et puis c'est ça qui nous a montré des signes qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Puis on va voir le médecin, il nous dit des choses, mais on est complètement troublés. Nous dit, visiblement, il était excité, il s'est attaqué. Et on se dit, de toute façon, à ce moment-là, on pense qu'il va survivre. Il nous dit qu'il a fait moins de 10 minutes d'arrêt cardiaque. Là-dessus, ils ont dissimulé les faits. En fait, il avait fait beaucoup plus que ça. Il savait qu'il allait jamais s'en sortir. Dans d'autres affaires similaires, pareil, ils font exprès de le mettre en coma pour qu'il puisse cicatriser et puis à l'autopsie de dire qu'ils savent pas. Dans beaucoup d'affaires, ils ont fait comme ça. Dans beaucoup d'affaires, parce que tout le monde, le cœur repart au bout d'un certain temps. Enfin, il peut toujours repartir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première autopsie, on n'a toujours pas les résultats de la contre-autopsie. Elle s'est faite n'importe comment. C'est-à-dire, dans le premier rapport de pré-autopsie qui a été diffusé à toute la presse, il n'y avait aucune mention des fractures. C'était dit qu'il n'avait pas de fracture, qu'il n'avait rien du tout, voilà. Alors qu'il a été fait sans le dossier médical, c'est-à-dire qu'il a été autopsié à J+9 et même pas. Il a été autopsié avant d'être autopsié, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ne pas voir 5 fractures et voir une excroissance, ils disent, en gros, oui, il avait une excroissance quelque part, une excroissance que tout le monde a. En gros, ils disent, c'est possible qu'il ait fait une mort subite. Ils ont dit, bon, bah, c'est... peut-être par un pliage, un pliage en 2 minutes, sachant que mon frère, il pouvait rester près de 4 minutes sous l'eau. Donc en 2 minutes, la tête entre les jambes, il ne meurt pas, mon frère. Et il y a des notes du ministère de l'Intérieur qui dit clairement qu'il n'y a aucune mort avérée, de mort certaine. Voilà, il y a des reconduites à la frontière sur des vols de plus de 7 heures. Effectivement, si vous restez 7 heures, la tête... Mais 2 minutes, non. 2 minutes, impossible. Et même tous les médecins disent que c'est impossible. Tous les médecins disent que c'est impossible. Mais là, les experts, eux, ils disent « Ah, oui, mais il y a une grande chance. » Voilà. Et surtout, ils disent qu'en gros, il y a une compression de la carotide. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers médecins qui le voient disent qu'il a d'énormes marques de strangulation. Moi-même, j'ai fait des arts martiaux. J'en ai fait des étranglements et j'en ai reçu. Je sais qu'on peut tuer quelqu'un avec très peu de marques de strangulation. Lui, il en avait des énormes, de partout au niveau de son cou lorsqu'il était arrivé. Il en avait tellement que 9 jours après, il avait encore des bleus. Après, il y a énormément de dissimulation au niveau des preuves, des photos qui ont été antidatées. Ils sont venus 2 fois, ils ont pris des photos 1 semaine, ils l'ont fait passer pour le 1er janvier. Après, lorsqu'on demande de vraiment aller chercher les photos, là, les juges ne veulent pas, on ne comprend pas. Ils disent, mais si, elles sont bien du 1er janvier alors qu'ils ne l'ont pas vu, nous, on l'a vu. Tous ceux qui l'ont vu vous diront qu'ils ne sont pas du 1er janvier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère est resté 6 mois à la morgue. 6 mois à la morgue. Ils ont essayé de faire durer. Sur d'autres affaires, pareil, autopsie, résultat d'autopsie en 2 jours. En 2 jours. Nous, 6 mois à la morgue. 6 mois à la morgue. Ils ont tout fait pour qu'on ne demande pas la contre-autopsie. Ils ont tout fait. Tout fait. Ils sont même allés jusqu'à prendre quelqu'un de la police des polices pour qu'ils disent que c'est interdit. En gros, ils ont essayé de, complètement de nous enrhumer en disant « Bon, ben, on a fait une technique interdite, excusez-nous. » Qu'ils puissent penser à ça, sachant qu'avec le nombre de fractures, avec les traces qu'il a sur le cou, tous les médecins vous disent qu'il a des traces de strangulation, mais, lui, mais eux, ils ne les voient pas. Moi, j'en ai vu des traces de strangulation. Ils nous prennent pour des cons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'avais dit, c'est que ce commissariat est connu, est très connu. Tous les journalistes nous disent ici, on a toujours des affaires sur ce commissariat qui sont toujours effacées parce qu'il y a une forme de consanguinité et de connivence énorme, énorme à Clermont-Ferrand.
Voilà, donc c'était un témoignage de Farid, le frère de Wissam El Yamni, assassiné par la police dans la nuit du 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. Donc on reviendra quand même pas mal sur ce témoignage parce que on vous en a passé qu'une partie. Il y aura sans doute une autre partie la semaine prochaine où on reviendra un peu sur le combat du collectif de Vérité et Justice qui soutient un peu cette affaire avec la famille de Wissam et un peu les proches et les gens qui militent autour, les mobilisations à venir. Et puis on reviendra aussi un peu sur le contexte de ce quartier dans cette ville de Clermont-Ferrand, encore avec le témoignage de Farid. On vous passera ça la semaine prochaine. À savoir aussi qu'on voulait vous passer un morceau de rap mais qui dure quand même 10 minutes, donc on vous conseille d'aller l'écouter sur internet, hein. Vous pouvez le trouver très, très facilement sur les sites de grande écoute de clips. Et c'est un morceau de rap qui a été fait par un collectif de rappeurs de la région de Clermont-Ferrand, donc en hommage à Wissam, et qui s'est adressé directement au collectif Vérité et Justice pour produire ce morceau et vraiment le dédié à Wissam. Donc c'est un beau morceau aussi, et comme on a l'habitude de passer du rap, on vous le conseille d'aller le chercher. Voilà, on va maintenant parler aussi de l'affaire de Ali Ziri, une affaire qu'on avait déjà beaucoup évoquée dans cette émission, pour montrer aussi un peu à quel degré la justice joue son rôle dans toutes ces histoires et fait en sorte qu'il y ait pourrissement quand des familles et des proches portent plainte contre les policiers qui ont assassiné une personne. On voit que ces affaires durent énormément de temps, des années et des années. On voit que là, pour Ali Ziri, qui est mort en juin 2009, les policiers viennent de rendre une ordonnance de non-lieu. Donc, le tribunal vient de rendre une ordonnance de non-lieu envers les policiers. Donc, l'information n'a établi aucun acte de violence volontaire qui aurait été la cause directe ou indirecte du décès. C'est l'information de non-lieu rendue par le tribunal de Pontoise il y a quelques jours, on va dire. Et donc on s'en souvient, Ali Ziri, c'est un homme de 69 ans, un retraité algérien qui est mort après son contrôle musclé, on va dire ça comme ça, à Argenteuil par les policiers, où il y avait eu visiblement énormément de violence qui avait causé la mort de ce retraité. Il était en compagnie d'Areski Kerfali, qui lui devait passer quelques jours après que soit rendue cette ordonnance de non-lieu devant le même tribunal de Pontoise pour des faits de rébellion et de violence sur les policiers eux-mêmes qui ont tué son ami Ali Ziri. Donc on va voir que l'affaire a été dissociée, que ce procès-là envers Areski Kerfali, le compagnon d'Ali Ziri, a été reporté à une date ultérieure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les policiers sont blanchis par rapport à la mort de Ali Ziri. Et l'avocat de la famille, justement, dénonce une instruction menée en fait par la police elle-même. Le juge n'a entendu absolument personne. C'est l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui a procédé à toutes les auditions sur commission rogatoire. Et toutes les requêtes de l'avocat, comme les reconstitutions de la scène, les confrontations des personnes présentes et plein d'autres choses, ont été refusées. Donc ça, c'est par l'avocat qu'on a appris ça. Certains éléments d'expertise n'ont pas été utilisés par le juge d'instruction, nous dit le même avocat. Le premier rapport médico-légal réalisé par le professeur Dominique Comte, ancienne directrice de l'Institut médico-légal de Paris, fait état d'une vingtaine d'hématomes et d'ecchymoses sur tout le corps de M. Ali Ziri, dont certains font 17 cm de long. Le juge d'instruction demande un nouvel examen à un expert qui aboutit aux mêmes conclusions. Ce même expert nous dit « Quel que soit le degré d'agressivité de M. Ziri, il s'agissait d'un homme âgé de 69 ans », conclut le nouveau rapport. Et il souligne le manque de discernement des agents. Aucun de ces éléments n'a été utilisé par le juge. Voilà, tout ça pour dire que ces enquêtes sont menées vraiment que dans un sens. Tout, est fait pour blanchir les policiers. Et même dans une affaire dont on a beaucoup parlé, comme celle de Al-Iziri, où on a évoqué énormément de témoignages de gens qui se sont prononcés en disant, et en premier lieu d'abord celui d'Areski Kerfali, qui décrivait la scène de son interpellation en disant que évidemment que c'était les policiers qui étaient responsables de cette mort. On voit que la justice, en tout cas, fait un esprit de corps avec la police et referme cette histoire de la plus moche des manières en accordant un non-lieu à la police. Donc c'est vraiment dégoûtant, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, voilà, l'avocat nous dit qu'ils sont prêts à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça annonce encore énormément d'années de combat judiciaire. On sait que ce combat judiciaire, même s'il est vain, il est nécessaire pour les gens qui les proches, la famille et les gens qui entourent le collectif, parce que sinon on a l'impression de rien faire, donc il faut rien lâcher, il faut toujours continuer. Mais en tout cas, on voit à quel point, à travers cette affaire, la justice se rend coupable de ce crime policier en blanchissant ces mêmes policiers. Et on va passer à une troisième affaire, justement, qui est un peu dans le même registre, celle de Ziyad et Bouna. Donc, ce sont deux jeunes de 15 et 17 ans qui sont morts le 27 octobre 2005. On s'en souvient, il y a eu énormément d'émeutes qui sont propagées dans toute la France suite à la mort de ces deux jeunes. À la base, ils ont été coursés par des policiers. Ils sont réfugiés dans un transformateur électrique EDF. Et c'est ça qui a provoqué la mort de deux d'entre eux et les blessures très graves d'un troisième qui s'était réfugié avec eux. On avait énormément entendu parler même de cette histoire dans les médias. En tout cas, au début du mois d'octobre, ce qui est sûr, c'est que pour la troisième fois, donc on en était déjà à la Cour de cassation, les policiers repassaient donc devant un juge pour voir s'ils étaient responsables ou pas de cette mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le parquet a requis encore une fois une ordonnance de non-lieu pour ces policiers qui avaient donc pris en chasse les jeunes parmi lesquels se trouvaient Ziyad et Bouna. Là encore, l'avocat général donc, qui soutient les policiers nous dit une phrase choc. On ne peut pas renvoyer des policiers devant le tribunal correctionnel sur des suppositions aussi vagues et des hypothèses par rapport à donc, cette course-poursuite qui aurait entraîné la mort. Puisque selon lui, à aucun moment, ce sont les policiers qui n'ont tué Ziyad et Bouna. Pourtant, ce qui ressort depuis le début de cette histoire, c'est quand même que M. Sarkozy, ministre de la Défense à l'époque, avait longuement évoqué la personnalité de ces jeunes qui étaient des voyous, des criminels, des délinquants, qu'ils avaient commis un vol et que c'était pour ça qu'ils étaient coursés par ces mêmes policiers. Avant de se rétracter quelques semaines plus tard, puisqu'ils n'avaient aucun élément pour soutenir cette thèse. Donc on a vu combien de saleté avait été jetée déjà à la tête de Ziyad et Bouna à travers les médias parmi les policiers et les instances, leur ministre de l'Intérieur. On sait à quel point tout ce qui a pu être dit là-dessus est flou et a été détourné par les médias. Aujourd'hui, quand il y a une course-poursuite avec des policiers et que les jeunes meurent au bout, il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Et d'ailleurs, je pense que on est tous assez grands pour en tirer nos propres conclusions. En tout cas, on se dirige encore une fois vers un non-lieu pour les policiers. Je dis ça, mais le verdict n'a pas été encore rendu. Il est pour le 31 octobre, donc dans quelques jours. Je vous conseille de suivre ça assez sereinement, puisque voilà, on se dirige encore vers un non-lieu et toujours vers cette même conclusion. Voilà, la justice acquitte les policiers qui tuent des jeunes. Et là, on en a la preuve sur les trois cas qu'on vient d'évoquer. La justice a toujours soutenu ces miliciens. Donc on en est là aujourd'hui. Sur l'affaire de Ziyad et Bouna, il y aura une mobilisation très prochainement. On en parlera à la fin de l'émission, un concert sur Saint-Denis, puisqu'on approche du 27 octobre, et donc ça sera pour commémorer leur mort. En tout cas, on continuera à nous parler de ces histoires, d'essayer de donner la parole donc aux proches et aux gens qui se battent pour que la lumière soit établie sur ces morts et pour que celle-ci ne serve pas à rien, à travers donc les avocats qui défendent ces cas et puis tous les gens qui les soutiennent dans les collectifs existants. Et puis on continuera, nous aussi, on lâchera pas l'affaire. Voilà, on s'écoute tout de suite un petit morceau de la rumeur, pas de justice, pas de paix, pour rester dans le sujet.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des ports armés aux trousses qui d'une poêle plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre, gonflés de noir et de propre. Ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène. Ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches, usés par la chaîne, par le mépris et le temps. Ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme. Et le brasier crépite, et le brasier crépite. Et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Vous êtes bien sur FPP 106.3 FM, www.rfpp.net, partout dans le monde. C'est l'émission Au fond près du radiateur. On vient de s'écouter Pas de justice, pas de paix de la rumeur, et on va se réécouter un petit peu de musique avant d'aborder le prochain sujet, la lutte du logement à Saint-Denis à travers le cas d'un hôtel et de son proprio qui est en conflit avec ses habitants. On écoute un peu de musique et on revient tout de suite après Au fond près du radiateur.
Float straight out of our lids. Them, they got boo bodies, hard rock Brooklyn kids. Us floor rush when they DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip hop record. He touch the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man, boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes to unthought of dimensions. Why's it so fly? Cause hip hop kept some drama. When butterfly rock the light blue suede boomers. What about a cut? We push it off the corner. How was the buzz entire hip hop era? Was fresh in fact since they started saying Audi? Cause funk's made fat from right beneath my hood. The pooba of the styles like Miles and shit. Like 60s funky worms with waves and perms. Just sending junky rhythms right down your block. We beat to rap, what key beat to lock, but I'm cool like that. 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 I'm cool.
We be the chocolates, taps on my raps. She innovates, apple sweeter cat naps. He at the funk club with the vibrate. Them they be crazy down with the five link. It can kick a plan, then a crowd burst. Me, I be digging it with the bug burst. A
till dawn, peeps an eye. He gets a stranger smile, so I say hi. Who understood? Yeah, understood the plans. Him heard a beat and put it to his hands. What I just flipped, let borders get loose. How to consume all the beaches like juice. If it's the shit, we'll lift it off the plastic. The babes will go spastic, hip hop is a classic. Pimp playing sharp, it don't matter, I'm fatter. Axe butter, how I zone.
Man, Cleopatra Jones.
And I'm chill like that, I'm chill like that, I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that, I'm chill like that, I'm chill like that, I'm chill.
We get you free, cause the clips be fat for us. Them dug the jams and commenced to going off. Sweats the beats and ask me cause she puff it. Me, I got crew kids, seven and a crescent. Us cause a buzz when a nickel bets a dealt. Him, that's my man with the asteroid belt. They catch a fizz from the Mr. Doodle Pig. He rocks a tee from the Brooklyn Nine Pigs. The rebirth is slick like my gangster stroll. The lyrics just like Luke coming stacks and rolls. You used to find the bug in a box with Dave. Now he boogies up your stage, plats twist the braids. And I'm peace like that, I'm peace like that, I'm peace like that, I'm peace like that. Peace like that, I'm peace like that, I'm peace.
Check it out, man, I groove like that, I'm smooth like that, I jive like that, I roll like that.
Yeah, I'm thick like that, I stack like that, I'm down like that, I'm black like that.
Yo, I funk like that, I'm fat like that, I'm in like that, cause I swing like that.
We jazz like that, we freak like that, we zoom like that, we out, we out, we out.
Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FM. On vient de s'écouter Cool Like That de Digable Planet. Et voilà, on est rediffusé aussi le vendredi matin de 7h à 8h30. Parce que je crois que je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent en 16h matinales. Et voilà, ça fait plaisir aussi. Et donc on va passer tout de suite à notre deuxième sujet. Avant, je vous rappelle vite fait les adresses, c'est www.aufondpresduradiateur.fr pour télécharger nos émissions, c'est notre site internet. Et puis pour nous écrire des infos, c'est aufondpresduradiateur@no-log.org. Voilà, donc notre deuxième sujet, c'est Raph qui va nous en parler, ça se passe à Saint-Denis, donc dans un hôtel, tu vas nous en dire plus.
Ouais, voilà, donc c'était la semaine dernière, il y avait un rassemblement devant l'hôtel Pleine Lumière à la Plaine Saint-Denis. Donc c'est avenue de la Métallurgie au 26, et en fait c'était les résidents de deux hôtels, donc l'hôtel Pleine Lumière et l'hôtel Grand Stade, qui se rassemblent tous les soirs pour en fait, ouais, j'ai oublié de le dire, c'est un hôtel en fait social. Donc c'est des gens en fait qui ont été soit expulsés de chez eux, soit qui étaient à la rue, ou qui ont eu divers problèmes, des incendies, etc., qui ont perdu leur logement, quoi, qui sont hébergés dans cet hôtel là qui est géré par le SAMU social de Paris et la préfecture, quoi. Et du coup ils sont logés là. Et à l'hôtel Pleine Lumière et à l'hôtel Grand Stade, en gros, c'est 300 personnes en tout, quoi, les deux hôtels. Et en fait, c'est un hôtel qui est, c'est des hôtels qui ont été construits au moment de la Coupe du Monde 98, là, qu'on a gagné et tout. Et en fait, du coup, au début, c'était pour les touristes, les hôtels. Et au bout d'un moment, les gérants, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire plus de thunes en faisant hôtel social, en fait. Parce que là-bas, bon, on va l'entendre dans les sons, les loyers des appartements qui sont payés par le SAMU social aux propriétaires et aux gérants, ils sont de 2000 euros minimum, quoi. Donc ils font énormément d'argent. Et voilà, quoi. Et donc là, ils se rassemblaient devant l'hôtel. Ils se rassemblent toujours, d'ailleurs, c'est tous les soirs à 20h. Parce que, en fait, cet hôtel, pour entrer, il n'y a pas de clé, c'est un badge, en fait. Un badge électronique, et ça sera plus expliqué dans les sons. Mais en fait, chaque fois qu'il y a donc on doit biper pour rentrer, et chaque fois qu'il y a un conflit entre les gérants et les résidents, et ben, ils démagnétisent les badges et ils mettent tout le monde à la rue, en fait. C'est un moyen de contrôle et de pression dont ils abusent, quoi, et dont ils usent, dont ils servent, quoi. Et donc là, au début du mois, ils ont mis tout le monde à la rue. Et donc voilà, il y avait des rassemblements contre ça. Et aussi parce que à la fin de l'année, le 31 décembre, ils ont envoyé des lettres à tous les résidents pour dire qu'ils allaient les mettre à la rue définitivement cette fois-là et qu'ils allaient arrêter de travailler avec le SAMU social. Donc voilà, je propose qu'on en écoute le premier son.
Toi, c'est des sons que tu as pris au rassemblement, donc
ouais.
devant l'hôtel.
Devant l'hôtel Pleine Lumière, ouais, la semaine dernière.
Ok.
Donc voilà, c'est parti. Hein.
Moi, je m'appelle Hassan, okay. Je suis délégué du collectif Pleine Lumière et Grand Stade. Ici, nous venons pour dénoncer que ce soit les agissements du SAMU social vis-à-vis de 250 familles presque dans les deux résidences et aussi du gérant des deux résidences. Comme vous le savez, à la date du premier, ils ont fermé les portes, ils ont bloqué toutes les portes et c'est illégalement. Donc des enfants sont retrouvés dehors comme ça. Ils n'ont même pas pu leur goûter ni prendre faire un brin de toilette. Ils se sont retrouvés jusqu'à tard. Donc une femme s'est emportée. Elle a insulté.
Ouais.
Bon. C'était pas méchant, c'était légitime. Quand quelqu'un se retrouve avec ses enfants dehors, bah, la réaction des gens peut être violente aussi. Mais il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu. Bah, du coup, il y a des représailles de la part du gérant. Il a toujours fermé la porte de la dame. Et le SAMU social ne répond plus. Et voilà, on est sollicité à chaque fois pour trouver des solutions. Étant donné que nous dépendons du SAMU de 75, SAMU social de 75, même que maintenant le gérant, il veut bien lui ouvrir, mais il demande à ce que le SAMU social envoie une régularisation de la situation de la dame, à savoir une nouvelle prise en charge et qu'il lui facture les journées passées ici. Voilà. Voilà, nous voulons des solutions pérennes parce que le gérant nous a envoyé tous un courrier. Nous annonçons la fermeture prochaine, à cette heure, 31 décembre, de cette résidence et de la résidence du Grand Stade. Donc tout le monde va se retrouver dehors s'il n'y a pas eu de relogement. Bah voilà, c'est maintenant nous voulons prendre les devants, nous voulons dire à tout le monde que nous, on est pour le moment, on est là. On ne part pas s'il n'y a pas de solution pérenne. On a eu des contacts avec la préfecture de Paris en 2009. On a eu, c'est comme qui dirait, des promesses où il était clairement stipulé qu'il n'y aura pas de déplacement de ces gens-là dans un autre hôtel. S'il y a déplacement, ça sera donc pour des logements, pour des solutions pérennes et durables. Et depuis 2009, rien n'a été fait. Il faut savoir qu'il y a des familles qui ont fait 18 hôtels, des déplacements de 18 hôtels. Vous imaginez quand vous avez un enfant scolarisé dans telle école et au bout de 15 jours, on vous demande de partir dans l'autre école qui est à l'autre bout de la ville ou bien si ce n'est pas en banlieue, en grand banlieue. Ce n'est pas une vie. Et les gens qui sont là depuis 2006, comme moi, quand il y en a plein. On est arrivé peut-être avec une valise, mais là, on se retrouve après des années. Si on doit partir, ce sera un déménagement. Et aucun hôtel n'acceptera de nous recevoir avec tout ce qu'on a. Pardonnez-moi. Soit on jette tout, on recommence à zéro, soit je ne sais pas quoi faire. Donc, on voudrait qu'il y ait des solutions durables. Et comme on sait qu'il y a des solutions, il suffit juste d'un peu de bonne volonté. Dans d'autres hôtels, on n'a pas de coin cuisine. On n'a pas le droit de cuisiner. Ici, on a trouvé quand même un minimum de confort. Vous avez un coin cuisine, vous avez des douches qui ne sont pas sur le palier, comme certains hôtels. Vous avez quand même un peu de confort. Donc, en 2009, quand plus d'une vingtaine de familles ont été appelées à quitter cette résidence pour partir dans une autre résidence à Torcy, c'était un hôtel qui avait cramé, qui a été restauré. Des gens sont partis voir là-bas, c'est inhabitable. Donc on s'est dit, mais basta, on arrête. Pourquoi nous transférer d'un hôtel à un autre hôtel? On préfère rester ici, on a un minimum de confort en attendant qu'on trouve des solutions. Donc c'est de là que le mouvement est parti.
Et là, comment ça se passe quand ils veulent virer quelqu'un? Et vous faites quoi?
Comme les portes, ici c'est des cartes magnétiques, on n'a pas de clé. Donc il suffit que le gérant passe avec une carte à lui pour démagnétiser toutes les portes. Mmh. Et du coup, toutes les cartes qui sont en possession des locataires, ils fonctionnent plus. Tu vas chez toi, tu rentres plus. Le seul moyen de se maintenir en place, c'est d'avoir une chance qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur lorsqu'il est démagnétisé. Mmh. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une personne en permanence à l'intérieur. Sinon, si vous fermez la porte, il n'y a personne pour ouvrir, vous êtes bloqué. Ah, merci, c'est à moi.
Non, c'est à moi, faut le monter. Non,
là. Ah oui, parce que j'ai la même.
Ça, c'est les cartes pour rentrer.
Voilà. Oui, pour rentrer. Il suffit qu'il bloque, c'est fini. Tu ne peux même pas rentrer ni sortir. Quoi.
Et ça arrive souvent?
Oh, maintenant, ils ont changé le système. Avant, c'était pour un mois. Maintenant, il faut renouveler chaque jour. Il suffit que vous sortez et que vous n'avez pas eu le temps de pouvoir téléchargé, c'est fini. Vous ne pouvez pas rentrer. Donc des fois, vous arrivez encore là-bas, vous montez par les escaliers, vous arrivez là-bas, la porte est complètement bloquée. Ce n'est pas bien verrouillé.
Est-ce qu'il faut le passer une fois en bas et une fois pour la chambre?
Ah oui, il faut passer à chaque moment. Avant, c'était mieux quand même. Mmh. Depuis qu'il y a ces situations-là, maintenant, tout a changé maintenant. Mmh. Il faut, passer tous les jours. Vraiment, ça nous dérange vraiment cette situation-là. Mmh. C'est pas, pour moi, ce n'est pas du tout normal.
Ça dérange tout le monde.
Non, non, non. Mmh. Maintenant, là, au mois de décembre, au 31, ils vont rester dans leur maison, ils vont fêter. Nous, on sera dehors. Mmh. Imaginez un peu cela. Mmh. Ça nous rend malade, ça nous rend fou quand même. Mmh. Ça nous rend fou. À la veille de la fête, le nouvel an, moi je suis à la... Et il va faire froid, ça je le sais. Je serai à l'extérieur, dehors avec mon enfant. J'aimerais bien qu'il me trouve une maison, c'est fini. Qu'on nous trouve une maison, c'est fini, c'est mieux. C'est ça. S'il faut aller réclamer ton droit là-bas auprès de la dame, ils vont vous foutre à la porte. Je me trouverai, nous allons nous retrouver dans une situation où... on demande à Samy de vous faire, de vous mettre à la porte. Donc, parfois, vous avez des droits à réclamer. Vous hésitez de pouvoir demander ces droits-là. Parce qu'on a peur. Nous ne voulons pas rester là avec cette situation-là. Chaque jour, regarde, là, il y a les enfants, ils veulent pas. Ils doivent aller à l'école. Maintenant, ils sont à l'arrêt. Et demain, le résultat. Ils vont dire que non, les immigrés, regardent ce qu'ils font. Après, ils vont dire que les immigrés, leurs enfants, ne s'adaptent pas bien à l'école. Nous ne voulons pas vivre aussi cette situation. Nous devons aussi encadrer nos enfants aussi, qui nous donnent aussi les moyens pour aller encadrer nos enfants. Je ne peux qu'encadrer mon enfant, moi, si je suis mien et chez moi. Je peux tout appliquer, mais comme ça, là, je ne peux pas le faire. Regarde, les enfants sont à l'arrêt. C'est pourquoi nous ne voulons pas quitter comme ça qu'il y ait une solution durable. Quoi. Nous, par exemple, ma femme a des papiers. Nous voulons avoir une maison. C'est la... On a un peu la moyenne pour aller payer. Mais nous voulons avoir une maison. Nous ne pouvons pas quitter ici sans créer une maison. Nous voulons être autonomes. Nous ne voulons pas que l'État puisse payer ou le service social puisse payer pour nous. Nous voulons avoir une maison. Parce qu'il y a des logements qui sont vides. Il y a des maisons qui chôment. Ils ne veulent plus nous donner des maisons. Pourquoi? Il y a des maisons. Il y a des maisons partout. Qui nous donnent des maisons, c'est fini.
Voilà, donc c'était la première partie du reportage qu'on a fait la semaine dernière devant l'hôtel Pleine Lumière, avenue au 26 avenue de la Métallurgie à Saint-Denis. Donc on va faire une pause musicale et on va ensuite écouter la deuxième partie du reportage avec Lamia. Donc c'est la personne qui a encore des problèmes de badge parce qu'elle a tenu tête au gérant et que donc il veut pas lui remagnétiser son badge pour qu'elle accède librement à sa chambre. Quoi. Donc le son qu'on va écouter, c'est des rappeurs de Saint-Denis, donc c'est De Spigui Gonzalez du groupe Ursa Major, et c'est le morceau, c'est Triste Époque, on écoute ça tout de suite.
Aïe, on veut du changement, on veut du changement, on veut du changement, aïe, on veut du changement. Aïe, j'ai la dalle depuis que je suis petit. Écoute bien ce qui se dit. Du 9-3 aux 8-10, on lance les rimes au frisbee. Poser des vers, c'est notre Nesby. On s'investit sans vesqui, en gardant l'estime dans l'esprit. Ambiance festive à l'extrême, comme à l'ancienne Paname et sa banlieue parisienne. Des rimes du bled, big rap, sur bande son craqué. Acrobate, lyrical, en 8 mesures grattées. Ça fait vandale comme nos scuds illégales dans les agames. Pas d'état d'âme, la nervosité réside sur Paname. Angoisse, stress, obscurité, aucune sécurité. Quand les vandales opèrent, dans la marginalité, en toute impunité. Sans queue ni tête, sans queue ni schneck. Check le mic fond, en prenant la tête, en se prenant la tête. Mike Fon, défonce le micro, comme le métro, toujours à fond, écarte les mythos jusqu'au comico. On veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement, on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. On veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement, on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. Ils veulent nous voir au bout du rouleau, morale à zéro, demander de l'aide, un sale déroulé, pendant combat de l'aile, un bat bled, un pas de plus, sans bac plus, pas de blême alors qu'un tas de gus, sans bat plus. Triste époque, le moral brise tes potes, évise tes côtes, remonte ton froc, te laisse pas faire négro si on te provoque. Prends ton temps même si c'est dur, c'est pas une aventure, personne va te dire quand c'est mort et que tu vas droit dans le mur. Beaucoup sont morts ou errent dans la rue sans repère, beaucoup sont foutus à la dasse, sans remède, sans repère, aucune victoire sans retrait. crois en toi, sois concret. Évite l'écoute très, mais plutôt d'écoute tes. Sois entêté, y'a mec têtu qui rentre dedans à tue-tête. Prends-toi la tête sur ton vécu et n'accepte pas la défaite. Sur l'asphalte, les mamouates dans le périmètre, ça zieux. Fais gaffe au contrôle de la vague qui débarque en meute. On veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. On veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. Retour en marche arrière, sur fond d'une époque charnière, on a fait sauter les chaumières. Dans les quartiers populaires, état d'esprit missionnaire, visionnaire, débranche ton cellulaire, faut que t'accélères. Si tu vois que c'est l'heure, strict rustler du son pour les hustlers. Donc laisse-les poser sur le chromis sans compromis, puis exposer. De Saint-Denis à Paris, ça s'organise pour exploser. Passionné de chromis, fais pas le tommy, laisse poser. Pas équipé, coupé sport. T'inquiète, le disque on le sort. Sans label ni sponsor. On veut tous s'en sortir, on garde l'espoir, de toute façon. Le rap c'est sans amorti, y'a pas de mal, passons. Le temps presse, décompresse, laisse-nous fumer le stress. Feu de détresse, ça bombarde, sans connaître l'adresse. Depuis l'époque on lâche rien, on est tous sereins. Déterminés des vrais chiens, lâchés sur le terrain. On veut du changement, sans se mentir, du rangement. Sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. On veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement.
Donc voilà, c'était Despi Gonzalez, Triste Époque, ça vient de Saint-Denis. Et on reprend sur le prochain son, donc du reportage qu'on a fait devant l'hôtel Pleine Lumière avec les résidents qui sont en lutte contre le fait qu'il soit mis à la porte, quoi. Donc on va écouter tout de suite le prochain son, donc avec Lamia. C'est la femme en fait qui a encore des problèmes de badge, et voilà, donc on va écouter ça tout de suite.
Le premier jour, c'était le 2. Ils ont amené une personne de l'extérieur pour nous bloquer exprès. Ils ont fait ça exprès pour nous, qu'on se révolte et pour appeler le SAMU et les associations pour gagner plus d'argent et tout. Et ce jour-là, mon fils, il est venu à 14h30 de l'école. Alors le monsieur, il ne voulait même pas lui ouvrir la porte. Et il y avait une petite dispute entre moi et lui ce jour-là. Jusqu'à maintenant, moi, je suis prise en otage, quoi. Ça fait depuis le 2. Je ne sors pas de ma chambre. Mon fils, il vient de reprendre l'école. C'était hier qu'il partait à l'école. J'étais obligée de le garder dans la chambre. Comme ça, on se retrouve pas dehors, quoi. Moi, je suis bloquée depuis le 2. Et là, le premier, il l'a fait pour tout le monde. Et à partir du 2, il n'y a que moi qui est bloquée, quoi. Et les autres, ils rechargent leur carte chaque jour. Avant, on recharge même pas. Ça se fait automatiquement.
D'accord.
Mais maintenant, ils rechargent chaque jour. Alors,
ça se passe comment pour recharger? Il faut demander l'autorisation?
Non, on passe là à l'accueil. Et voilà, il y a le monsieur qui vient pour recharger les cartes.
Et des fois, il ne veut pas la recharger?
Il nous demande des pièces d'identité pour la recharger. Et ça, on ne l'a jamais vu. Ça fait quand même... On a fait plusieurs hôtels, on n'a jamais vu ça. Il fait sa loi, quoi. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait, c'est illégal. On est allé porter plainte. La police ne voulait rien savoir. Ils nous disent que... Et les propriétaires, alors il a le droit de faire ce qu'il veut. Nous, on n'a pas le droit de manifester ou de dire pourquoi. On subit et on fait un autre bouche, quoi.
Et là, du coup, pourquoi ils veulent pas remagnétiser votre carte?
Moi, j'ai pas pu accepter l'humiliation. Alors, je lui dis, parce que je l'ai prévenu le vendredi. Le lundi, moi, je travaille. Alors, ça sert à rien de bloquer ma porte. Il y a mon fils, je lui dis qu'il y a mon fils qui sort de l'école à 14h30. Et quand je suis venue, il m'a dit, vous pouvez rentrer par les fenêtres. Hein. Comme les autres, ils ont fait. Je lui ai dit, non, c'est hors de question. Moi, je ne suis pas venue en France. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas un voleur pour rentrer par les fenêtres. Je suis sortie par la porte, alors je rentre par la porte. Alors, je n'ai pas accepté l'humiliation. Alors, lui, il a commencé à dire n'importe quoi. Alors, on s'est disputé verbalement. C'était pour cette raison-là. Et maintenant, il me demande si vous excusez. Alors on vous débloque la porte. Il me fait du chantage.
Bon, sérieusement ?
Moi je lui dis non, oui, c'est de l'humiliation. Ouais. Je lui dis c'est hors de question. Même si je sais pas, je dois mourir, je vais pas le faire. Parce que j'avais pas tort. Il m'appelle à 14h30, il y avait la police ici. Votre fils il est dehors, il y a la police. Alors il s'attendait à quoi ? Quand je viens lui serrer la main et rigoler avec lui, automatiquement que je crie et je... Et maintenant, il m'appelle au téléphone, voilà, alors Lamia, pourquoi vous vous excusez pas, on va enterrer cette affaire-là, et voilà, on redevient comme avant. Et je lui dis, s'il attend mes excuses, c'est non. S'il vient s'excuser à mes enfants, oui, je serai prête de le faire moi aussi. Mais il faut qu'il vienne s'excuser à mes enfants. Parce que là, moi, je me bats pour mes enfants. Ce que j'ai fait, c'était pour mes enfants. Mmh. Je suis prête à pardonner s'il demande des excuses à mes enfants moi aussi. Mmh. C'est question de principe.
Ça fait combien de temps que vous êtes là ?
Depuis 2007.
2007 ?
Oui.
Et vous, avant, vous étiez dans un autre hôtel ?
Oui, j'ai fait Bagnolet, étape de Bagnolet. J'ai fait étape de Saint-Ouen. Et j'ai été à Clichy-sous-Bois aussi, à Formule 1.
D'accord. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à changer d'hôtel comme ça ?
Bah, c'est eux qui nous changent.
Ouais.
C'est pas nous. Mmh. Ils nous déstabilisent, quoi. À chaque fois, on change d'hôtel, on est obligé de changer d'école, des enfants. Mmh. C'est pas nous qui demandons. Mmh. Ils nous disent que c'est un hébergement d'urgence, alors il faut accepter, sinon vous êtes dehors. Mmh. On n'a pas le choix, on l'accepte. Mmh.
Vous êtes resté combien de temps à chaque fois dans les hôtels ?
À Saint-Ouen, c'était un an. Mmh. À Clichy-sous-Bois, c'était 4 jours. Et à Bagnolet, c'était 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mmh. Et là, c'est 6 ans. Mmh. En plus, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien du tout là-bas. Il y a les toilettes collectives, le sanitaire est collectif. Mmh. On ne cuisine pas, on ne mange pas forcément. On mangeait que du pain et du lait, comme ça, froid. Mmh. C'était pour cette raison. Il y avait les enfants qui étaient scolarisés dans le 20e. Alors, c'est pas évident de les ramener chaque jour.
Ah oui.
Bah, je me rappelle une fois, mon fils, il est tombé dans les rails, tellement qu'il était fatigué.
Ah oui. Mmh.
Les rails du métro. Heureusement qu'il y avait des gens qui m'ont porté. Mmh.
Vous faisiez comment pour le ramener à chaque fois ?
Je prenais le métro.
Ouais.
Je sors à 5h30, 6h du matin. Et le soir, je rentre jusqu'à 22h30, des fois 23h. Mmh.
Vous aviez un travail en même temps ?
Là, je l'ai perdu. Je viens de le perdre parce que je suis bloquée.
Ah oui ? Comment ça s'est passé ?
Bah, comme je suis bloquée, alors je peux pas. Forcément, je peux pas sortir. Alors, je peux pas travailler. Pour cette raison-là.
D'accord.
Alors, la dame pour qui je travaille, ça y est, elle m'a dit, elle a besoin de quelqu'un qui garde son fils du matin au soir. Et moi, je pouvais pas, parce que si je sors, ça y est. Je me retrouve dehors, forcément. Ça fait 10 jours que j'ai pas travaillé.
C'était pour garder son fils, vous gardiez son fils en fait.
Je garde son fils et j'accompagne l'autre à l'école. Mmh. C'était de 7h du matin jusqu'à 20h du soir, 19h30, ça dépend.
Mmh. C'était bien payé, c'était payé combien ?
Oui, en plus, c'est la première fois que je trouve un travail qui est bien payé. Quoi.
Ah ouais ?
Parce qu'avant, j'ai galéré. Et j'ai commencé à travailler le 25 du mois passé, avant octobre. C'est septembre. J'ai commencé le 25 et j'ai arrêté le 2. Et j'ai galéré pour avoir ce travail.
Parce que les travails d'avant, c'était payé combien ?
Bah, je travaille pas, c'était pas à plein temps, c'était à temps partiel, 2 heures par jour, des fois 1 heure, des fois 3 heures par semaine, des fois il n'y a pas, ça dépend du jour. Mmh. Mais là, c'est pour la première fois que je commence un travail à plein temps. C'est la malchance. Il n'y a pas que les cartes, il y a l'entretien des chambres, ils font rien. Mais la peinture, alors si vous voyez les chambres comment ils sont catastrophiques.
J'ai une fuite dans ma chambre.
Moi j'ai tout fait moi-même. J'ai fuite. Le sanitaire, c'est moi qui ai tout fait.
Mais j'ai une fuite dans ma chambre, ça fait une semaine ou plus. Il ne répare pas.
Écoutez, j'ai saigné à aller.
Le chauffage ne marche pas dans ma chambre. Elle est cassée, mais. Il bouge pas.
Moi, mon fils, il
n'y a personne toujours. Ils disent qu'il n'y a personne.
Et ils sont payés par. En plus, ils disent qu'ils ne sont pas payés par la SAMU sociale, mais apparemment,
non,
ils sont payés par.
En plus, c'est 2000 euros par chambre, on m'a dit.
Minimum. Le minimum, 2000 euros par chambre.
Ah, mais ils font beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. Ouais. Ils volent l'État, quoi. Ouais. C'est des grands voleurs.
Hein. Ils s'entendent ensemble, ils sont amis.
Franchement, ouais, mais il a dit, Malek. Tu te rappelles qu'il a dit, moi j'ai des bras.
Des bras ça fait des années que ça dure ces histoires.
J'ai des connaissances partout.
Il y en a qui font de la thune quand même.
Il a plein d'hôtels là en Kabylie.
Ah ouais.
Ah oui, il est trop riche là-bas.
Ah ouais.
Il prend l'argent d'ici pour investir là-bas. C'est ce qu'il fait.
Il fait quoi avec l'argent
immobilier en Algérie?
Il achète des apparts, il achète des hôtels comme ça. Mais par contre, là-bas, il n'y a pas de social. C'est pour les touristes et tout. On n'a pas de social chez nous.
C'est pire. Hein.
Mais...
Il touche l'argent. Il touche l'argent.
C'est de la thune là-bas aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? On vit la misère avec eux. C'est la misère avec eux. Pas de tranquillité, pas de confort, rien du tout. Ceux qui habitent au rez-de-chaussée au premier étage, ils ont des souris dans leur chambre. Imaginez-vous, des souris. Alors les cafards, on parle pas. Il y avait du punaise d'un moment.
Et ça, c'est 2000 euros.
Minimum. Ils gagnent, mais il ne sort pas lui. Il veut que gagner. Que empêcher de l'argent. On veut la tranquillité. On veut vivre dignement. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on demande. Dignement.
Voilà, donc c'était Lamia, une des résidences de l'hôtel Pleine Lumière, qui est en lutte donc pour la dignité, on peut dire, et pour voilà, pour des bonnes conditions de logement. Je rappelle qu'il y a des rassemblements tous les soirs à 20h devant l'hôtel Pleine Lumière, donc c'est 26 avenue de la Métallurgie à Saint-Denis, à la Plaine Saint-Denis. Et donc contre aussi le fait que les habitants sont sous une menace d'être virés à la fin de l'année, le 31 décembre, de se retrouver dehors, quoi. Et ce que je voulais dire aussi sur ce reportage, c'est que ça montre que derrière la gestion de la misère, y a des gens qui s'en mettent plein les poches et qui font de l'argent sur la misère des gens et qui sont rentiers et qui se font plein de thunes comme ça, quoi. Donc là, on entendait parler du gérant qui s'appelle Kalfaoui et donc qui investit sa thune en Kabylie et qui achète plein d'hôtels pour se faire encore plus d'argent. Donc je voulais dire aussi, on peut mettre ça en relation avec d'autres choses qui se passent, avec tout ce qui se passe sur le logement en général, que par exemple, à Saint-Denis, il y a des plans de rénovation et donc on détruit des immeubles qui sont insalubres. Mais le truc, c'est qu'on construit des nouveaux immeubles avec des loyers beaucoup plus chers qui ne vont pas du tout être pour la même population. Et les gens qui sont expulsés ne sont pas relogés sur place et ils sont relogés dans des hôtels aux quatre coins de la région parisienne. Dans des conditions, on a entendu, on n'a pas le droit aux visites. On peut pas faire à manger, les hôtels sont vraiment indignes et voilà, quoi. Et donc voilà que en plus d'être pauvre, et ben il faut être docile et que ceux qui ouvrent leur bouche ou qui se révoltent ou qui luttent, et ben on leur fait des histoires et voilà, quoi. Il faut se tenir tranquille et rien dire par rapport à tout ça, et voilà, il y a des gens qui luttent et bon, voilà, on vous tiendra au courant sur ce qui se passe là-bas, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ça.
D'abord, une première chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement l'état de ces hôtels, en tout cas de cet hôtel, c'est un hôtel miteux, avec des conditions, mais franchement, il faudrait mettre tous ceux qui sont les décideurs de comment on loge les gens qui habitent juste une journée dans cet hôtel pour voir ce que ça signifie financer via, en fin de compte, soit les systèmes de la santé, soit le question sociale, eh bien, des personnes, parce que c'est quand même 2000 euros pour avoir des rats, des punaises, en général des endroits où on ne peut pas ou pas du tout faire à manger, on ne peut pas ou pas du tout se doucher convenablement. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater. On se dit, mais merde, ça coûte quand même 2000 euros. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. J'allais dire, de tout ce qui est au niveau du traitement de différentes catégories de personnes qu'on ne peut pas, qu'on considère qu'on n'arrive pas à loger dans l'habitat social, c'est ça qui est fait. C'est-à-dire que dire que c'est un marché de la misère, c'est juste... c'est pas que la préfecture ou je sais plus quel autre décideur a fermé les yeux. C'est le seul moyen qu'on a comme dispositif pour loger les gens que de les faire loger dans un habitat qui est un habitat insalubre. Par exemple, on pourrait prendre le cas de toute une série de gens qui habitent à Paris, qui touchent l'APL dans un lieu privatif, donc bail privatif, et où entre 50 et 80% de l'APL payent le loyer. Et effectivement, il y a des incendies régulièrement, etc., etc. Et là, on est dans l'aspect de qu'est-ce que le logement à Paris, etc., et l'impossibilité, j'allais dire, de faire habiter les gens, tout simplement parce qu'il y a les règles du marché qui existent, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des métropoles, soit à Paris, on pourrait parler de Londres ou d'autres capitales européennes, sont tellement chères, qui sont tellement inaccessibles à des personnes qui ont des petits revenus aujourd'hui. Donc, le palliatif de ce qu'on pourrait appeler l'État-providence, c'est que quand on a tel type de population qui pose problème, une partie d'entre elles va être relogée via le social, via les questions de santé, dans des hôtels comme celui-ci. Et je pense que c'est un rat qui se, j'allais dire, se tape, on tourne en rond dans ce truc-là. Parce que le premier point central qui est à Paris, dans la région parisienne, il est plus possible pour des gens qui ont 1000 euros par mois, c'est-à-dire de base, c'est-à-dire le SMIC, de se loger décemment. C'est plus possible. D'où tous ces traitements, soi-disant, de dispositifs pour essayer de régler une partie de ces populations. Et ils vont être pris en charge. Et effectivement, comme le loyer est tellement cher dans ces hôtels-là, eh bien, c'est l'État, c'est l'Agence régionale de santé, c'est je ne sais pas trop quel dispositif social qui va payer ça. Voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas le taulier. Je veux dire, ils ont à juste titre raison et d'être en colère contre le taulier, etc. Mais il y a d'autres décideurs qui en fin de compte, les normes de sécurité en termes d'incendie, on pourrait même parler de ça, en termes d'hygiène, c'est-à-dire quand il y a des cafards qui pullulent, c'est pas le fait que les gens ne sont pas capables de nettoyer leur chambre d'hôtel, c'est parce qu'à la base, tout est hors normes. Et on peut le prendre dans le 13e arrondissement sur d'autres dispositifs qui sont des dispositifs sur des personnes qui sont malades, VIH, à la rue. Eh bien, certains hôtels meublés ne sont rien d'autre que des taudis et où, effectivement, ceux qui gèrent ça, ce ne sont rien d'autre que des vendeurs de sommeil, etc. etc. C'est une accumulation, je veux dire.
Après, c'est vrai qu'au-delà des tauliers, des gérants, des proprios de ces bâtiments-là, c'est sûr que l'État est carrément complice de cette situation, comme tu le dis, puisqu'il il délaisse ce truc-là aux questions sociales qui forcément renvoient la balle à des propriétaires, à des marchands de sommeil. Voilà, comme tu disais, on se retrouve dans une situation où le rat se mord la queue. Après, c'est vrai qu'aussi l'État, qui impose lui-même ses règles de sécurité, ses normes, etc., vient aussi te dire quand tu décides, par un moyen ou par un autre, de prendre un peu cette question-là en main et éventuellement d'aller squatter un lieu, de réquisitionner un appartement, que tu dois dégager parce que cet appartement est insalubre et ne répond pas à ces normes.
Absolument.
Donc c'est vrai qu'on est dans des phases où voilà.
Mais le premier point central qu'il faut essayer d'entendre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'État qui devrait... par exemple, il y a la loi Dalo, etc., c'est pipeau et lande, quoi. Je veux dire, faut le dire clairement. Je veux dire, c'est du baratin, je veux dire. Il y a des listes d'attente des années et des années. N'importe quel travailleur social sait de quoi on est en train de parler. Effectivement, n'importe quel travailleur social, assistante sociale, il va essayer d'inscrire la personne loi Dalo, qui est une loi qui, à un moment donné, va soi-disant obliger dans la loi le droit à accès au logement. Donc, c'est très bien qu'il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils attendent les trucs comme ça. Je veux dire. On est vraiment dans ça, qui est un... Il n'est plus possible de se loger aujourd'hui en région parisienne, qui a aujourd'hui une souffrance réelle, que l'État via ces hôtels, essaye de cacher la misère et effectivement finance des choses à 2000 euros. Donc on imagine, je ne sais pas, il y a combien de personnes dans cet hôtel, il y a 100 personnes, ben, vous multipliez par 2000 euros. Ben, voilà, on préfère ça parce qu'on est incapable de, malgré tous les grands discours, etc., malgré toutes les lois, etc., eh bien de financer et d'aider des gens à vivre dans un logement décent. Donc, on fait un traitement qui s'appelle de l'urgence. Et l'urgence, aujourd'hui, c'est de cacher la misère. C'est-à-dire que cacher la misère, c'est que les gens ne soient pas à la rue et qu'on soit trop dans ce visuel de capital, machin chose, et des gens qui sont à la rue. Et on sait ce que ça veut dire comme conséquence, la misère, le vol, l'insécurité, etc. Parce que c'est de tout ça qu'on découle. Et donc, on est dans un traitement social qui est fait autour de ça.
Ouais, d'ailleurs, là, dans les sons qu'on a entendus, il y a un des résidents qui disait « Ouais, voilà, regardez, nos gamins, ils sont à la rue, on ne peut pas s'en occuper, même ils nous empêchent l'entrée de l'hôtel. Et après, on va dire que les immigrés, ils ne s'occupent pas de leurs enfants et qu'ils les délaissent ou je ne sais pas quoi. » Et je voulais aussi dire que ce qu'on entendait dans le son de Lamia, c'est qu'elle raconte qu'elle garde des enfants, en fait. Et en fait, les enfants qu'elle garde, en fait, c'est les enfants des riches, en fait. C'est les enfants des bobos, c'est les enfants des... ou des classes moyennes, même les enfants des gens qui ont les moyens de se payer une nounou. Voilà, bah, c'est les gens qui sont dans cet hôtel-là, qui sont dans ces situations-là, qui s'en occupent, quoi. Voilà, et aussi qu'à Saint-Denis, il faut attendre 6 ans en moyenne. Souvent, c'est beaucoup plus, à moins qu'on connaisse quelqu'un à la mairie pour obtenir un logement social. Et que en fait les hôtels meublés, c'est ce qu'on peut appeler le parc social de fait, en fait. C'est ça n'a pas forcément le statut de logement social, mais même les immeubles qui sont pas forcément en bon état ou quoi, il y a plein d'immeubles où les gens habitent pour des loyers pas super chers, qui sont pas forcément des logements sociaux et qui sont pas des logements en bon état. Et en fait, là, en ce moment, on les détruit, en fait. Donc, en fait, ces gens-là, où est-ce qu'ils vont aller? On les repousse de plus en plus loin et jusqu'à où, quoi. Voilà.
Voilà, en tout cas, on continuera de suivre cette lutte-là et puis de vous faire tourner du son. On va faire une petite pause musicale avant de passer au dernier sujet de cette émission. On parlera de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes et de la résistance face à la construction du projet d'aéroport Grand Ouest avec Tiffen, tout de suite après la pause musicale au fond près du radiateur.
Secret connexion, Ahmed Comar, Logino, un nouveau classique. Secret connexion, Ahmed Comar, Logino, un nouveau classique. Secret connexion, Ahmed Comar, Logino, Logino.
T'as vu mon groupe, ma troupe, elle est unie comme le splendide. Vaut mieux se tenir les coudes car autour de nous y'a comme un grand vide. L'idée c'est qu'au départ, parti de rien, y'a tout à construire. Donc luttez contre ceux qui contre nous, contre vous conspirent. On se tire loin d'ici, ne change pas le problème. Le froid, polaire, les sales regards où que ce soit et où que je me promène. La trouille des patrouilles et de leur loi complètement couillon. Veulent pas de mélange de culture et donc des pistes dans leur bouillon. On se débrouille comme on peut et on fait avec ce qu'on a. Tout que tu veux arrive pas, notre vie c'est un vrai combat. Donc je tiens bon, je m'agrippe, y'en a qui disent que je suis un brave type. J'ai pas de boulot, je suis pas gospel à la bras. C'est le ras-le-bol généralisé que j'arrive plus à canaliser. L'impression de m'enliser et de m'enfoncer, ça me fait baliser. Et avant, je croyais vraiment qu'il y avait un malaise. Mais tout est calculé car ils sont vraiment trop à l'aise. Je suis pas à l'aise, je veux me casser, boucler mes valises. Marre de toutes ces conneries, mort et violence qu'on banalise. Quand j'analyse, je me dis qu'en fait on est tous prisonniers. Au fond de nos cœurs, c'est un ghetto et pour sortir, on a beau cogner. Si tu connais, c'est notre passé, nous c'est homme d'action. Sans résultat concret, y'aura jamais de satisfaction. Mais que veulent-ils? Qu'on soit soumis, qu'on leur dise merci. Moi je rappe pour la T6, ça vaut 5 zénith. T'es pas merci,
si je prends le chromis, Ahmed Comar,
je rappe pour la T6, ça vaut 5 zénith, t'es pas merci.
Si je prends le chromis, c'est net et précis.
Je rappe pour la T6, ça vaut 5 zénith, t'es pas merci.
Si je prends le chromis,
Ahmed Comar,
Ahmed Comar.
Et c'est pas le popo ici qui me fera sortir du caca. Une mère qui trime, ça donne courage, surtout quand t'as pas de papa. C'est le même topo, dégoûté quand dans tes poches t'as pas. Un franc qui traîne, entraîne, ne pas semer, récolter nada. En attendant mon heure, je rappe sans raconter trop de bêtises. Je vois du monde en concert, même si je suis pas connu comme Fujis. Ahmed Comar, il veut aussi sa part du gâteau. Comme tous les galériens qui se sont fait mener en bateau. Un battant Car c'est ça ou devenir loser. Un putain d'employé qui devra bosser 12 heures. C'est en douceur. Vénère parfois que je balance des mots justes. C'est le chaume-lieu ou la rue. Car dans ce bis faut qu'on s'incruste. Je suis pas voyant. Voyons, j'ai pas une boule de cristal. Si je réussis un jour, j'inviterai mes potes ailleurs qu'en freestyle. C'est sur une île que je veux partir finir en beauté. Moi je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté.
Dans ta cité, les gens vrais n'ont plus de succès.
Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté.
Dans ta cité, la vérité est faussée. La vérité est faussée. Dans ta cité, les gens vrais n'ont plus de succès.
Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté.
Dans ta cité, la vérité est faussée.
Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté. Je rappe pour la thésis avant 5 génies des 20 persis. Je représente ma mère et tout le parquet qu'elle a frotté. Je rappe pour la thésis avant 5 génies des 20 persis. Je représente ma mère et tout le parquet.
Voilà, c'était la Scred Connection, donc Coma, et putain, je sais plus qui est-ce qui a rappé avec lui aussi. C'était nouveau classique, voilà, à l'ancienne. Bon, maintenant, on va changer de sujet. On va parler de la lutte contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes dans les environs de Nantes. Et ce qui se passe en ce moment, donc avec Tiffany.
Voilà.
C'est parti.
Donc tout ça se passe au nord de Nantes, hein, autour de d'un village qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Il y a une zone de plusieurs centaines d'hectares, une zone qui est actuellement essentiellement agricole et forestière, et sur laquelle l'État veut imposer la construction d'un aéroport international. C'est un projet qui n'est pas nouveau, qui date des années 60 et qui a été intégré dans les plans d'aménagement du territoire en 74 pour après être plus ou moins... il a été mis en veille en fait pendant près de 30 ans parce que les années 70, c'était aussi une période de crise pétrolière et que forcément, construire des aéroports et faire voler des avions en ces temps de crise, ce n'est pas forcément la chose la plus rentable au monde. Voilà, donc il a été mis en veille pendant 30 ans. Il a été ressorti des cartons à la fin des années 90, début des années 2000, par Jospin et consorts, donc à savoir tous les grands ponts du PS. Voilà, le projet a été notamment très très soutenu par Jean-Marc Ayrault, qui était l'ancien député maire de Nantes et qu'on connaît maintenant puisqu'il est l'actuel Premier ministre du gouvernement français. Voilà, ce projet d'aéroport, hein, il se met petit à petit en route. En 2008, il a été reconnu d'intérêt général par l'État. Voilà, à partir de ce moment-là, la machine elle s'est vraiment mise en place. Donc on a commencé à aller chercher des constructeurs. Celui qui a été choisi, ça a été Vinci, qu'on connaît aussi tristement parce que constructeur de nombreuses prisons en France, des centres de rétention, etc., etc. Donc la construction de cette et la construction et la gestion de cet aéroport ont été confiés à Vinci Agéo, aéroport Grand Ouest, et on a un échéancier qui s'est aussi mis en place, donc savoir début des travaux en 2014 pour une ouverture de l'aéroport en 2017. Donc en attendant, il a fallu commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on faisait pour vider toute cette zone de sa population. Parce que forcément, c'est pas possible de construire quelque chose quand il y a encore des centaines d'habitants sur les lieux. Toute une série de procédures judiciaires qui se sont mises en place pour virer tous les habitants, virer tous les exploitants agricoles. Des coups de pression, hein, des cadres de Vinci qui soit passer des coups de fil, soit se déplacer pour essayer de convaincre les gens de vider les lieux. Et donc là, ce qui se passe depuis une semaine, depuis exactement le mardi 16 octobre 2012 au matin, il y a une offensive qui s'est lancée sur cette zone. Une offensive policière. Les gens sur place nous parlent carrément d'occupation militaire. Ce qui s'est passé le mardi matin, c'est que il y a des centaines de policiers qui ont débarqué sur la zone, qui ont commencé à vider les lieux, donc à expulser tous les habitants, qui ont commencé à détruire les maisons pour éviter que les gens puissent s'y réinstaller. Et donc la zone, elle est fermée actuellement, elle est quadrillée, il y a des barrages routiers qui coupent les routes. y a des machines qui se baladent pour détruire un maximum de lieux. Il y a des flics qui sont là pour assurer. Assurer quoi ? Assurer, on ne sait rien, mais en tout cas, mettre la pression aux gens, leur faire peur, virer tout le monde.
Voilà, parce qu'entre-temps, en fait, ce qui s'était passé durant la résistance, qui s'est organisée quand même pendant des années,
c'est que
les gens étaient venus sur ce terrain pour aussi réhabiter le lieu, pour retisser des liens de solidarité entre les nouveaux arrivants qui arrivaient pour faire de la résistance et les anciens habitants historiques de cette zone. Donc, il y a eu quand même énormément de constructions, même physiques, pour résister, pour s'implanter dans ces terres, pour pas que le rouleau compresseur Vinci ait la main si facile pour dégager tout le monde. Mais bon, visiblement, c'est ce qui est en train de se passer plus ou moins en ce moment, quoi.
Voilà. Par contre, ça résiste, hein, parce que la ZAD, c'est la zone d'aménagement différé pour les urbanistes. Pour les opposants à ce projet, c'est la zone à défendre, puisqu'ils l'occupent, hein, tu l'as dit à nous, depuis 2009. Voilà, donc les gens résistent. Hein. Les gens résistent. Les flics ont mis pas mal d'heures à accéder au terrain. Il y a même un terrain qui a été. Les opposants ont carrément réussi à garder ce terrain parce que voilà, il y a des barricades qui ont été construites. Il y a des gens sur place pour se battre. Du coup, ils ont réussi à repousser les attaques policières. Voilà, donc toute cette histoire, on en a très très peu entendu parler dans les médias bourgeois. Quand on en parle, on entend parler d'évacuation sans violence. On reprend toutes les déclarations des flics et des préfets qui disent que voilà, il n'y a pas d'incident sur place, tout ça. Quand on suit un petit peu au jour le jour ce qui s'y passe, c'est juste... ça fout la rage, quoi. On a des informations toutes les 10, 20, 30 minutes qui tombent et des informations qui nous parlent de lieux qui tombent, de potagers complètement saccagés, enfin voilà. Donc peut-être le mieux, c'est là tout de suite de lire un petit communiqué, celui qui est sorti hier, sur le site de la ZAD, donc c'est zad.nadir.org, hein, si vous voulez suivre un petit peu les infos. Voilà, on va le lire tout de suite, il dit à peu près ceci. Donc, depuis mardi matin, 16 octobre, la ZAD est envahie et occupée en 3-8 par des centaines de policiers en tout genre. Ils s'attaquent petit à petit aux maisons et cabanes occupées qu'ils détruisent et emportent minutieusement pièce par pièce hors de la zone pour ne rien laisser qui puisse servir à reconstruire ou résister. Les lieux et jardins encore occupés sont régulièrement harcelés, couverts de lacrymos, piétinés. La police essaye de rendre impossibles les moments de rassemblement ou de réunion. Depuis mardi, les occupants et les personnes arrivées sur place ont répondu par des barricades, des blocages des axes utilisés par les flics, par des réoccupations, par des projectiles, par du feu, par des insultes et des sarcasmes. Depuis maintenant 4 jours, sous une pluie constante, quelques centaines de personnes tiennent la zone, coûte que coûte, face à la police, et comptent bien y rester. Des manifestations, des actions ont lieu tous les soirs à Nantes et dans d'autres villes. Et ce n'est pas fini. 7 maisons en dur ont déjà été expulsées, ainsi que quelques cabanes. Mais de nombreuses autres demeurent dispersées dans les bois, les champs, sur les arbres. Outre les occupants, des locataires, propriétaires et paysans sont toujours menacés, eux aussi, de devoir dégager de la ZAD. Autant dire que cette tentative d'expulsion XXL est partie pour durer. Nous ne pouvons encore présager de la manière dont les expulsions vont se poursuivre. En continu ou pas, dans les prochains jours, sur d'autres cabanes et habitats. Mais il semble assuré que l'occupation militaire de la zone et la destruction des maisons déjà expulsées continuent la semaine prochaine. Le sabot, qui est donc... le sabot, c'est des jardins maraîchers, hein, qui ont été occupés à partir de mai 2010. Le sabot a résisté toute la semaine dernière aux pressions policières. Mais il est possible que la préfecture cherche à le faire dégager dès la semaine prochaine. Une maison expulsée et réoccupée quelques heures plus tard vendredi soir, aux Fosses Noires, est menacée dans les 48 heures. Les cabanes dans les arbres et installations aériennes tiennent toujours et pourraient se multiplier. Il est très probable par ailleurs qu'une seconde grande offensive ait lieu après le 28 octobre, puisque 3 nouvelles maisons seront expulsables, dont les Rosiers, première bâtisse occupée sur la ZAD il y a de cela 5 ans. Quoi qu'il en soit, nous appelons dès aujourd'hui et pour les semaines à venir à l'arrivée de relais et de renforts créatifs et déterminés pour reconstruire, pour tenir, pour poursuivre les actions de pression ailleurs. Face aux possibilités de durcissement, en termes d'interpellation notamment, il faut tout faire pour que les occupants ne se retrouvent pas isolés. D'ores et déjà, bravo à fond à toutes celles et ceux qui ont mené les actions de solidarité, des manifs, des rassemblements, à 3 ou à 2000, envoyé des messages de soutien, apporté du ravitaillement, des chaussettes et de quoi lutter. ça réchauffe grave le cœur et les pieds et alimente la rage, en ces journées de résistance pluvieuse, de savoir que d'autres s'attaquent au PS, à Vinci et consorts, constructeurs dans l'aéroport et broyeurs de nos vies. Voilà, donc ça c'était le communiqué qui a été publié hier, le 22 octobre. On rappelle que toutes les informations pour soutenir, pour rejoindre la ZAD sont sur le site zad.nadir.org, qui a une grande assemblée générale vendredi soir à Nantes pour préparer la manifestation de réoccupation et que dans la région parisienne, il devrait y avoir aussi quelques actions qui devraient se mener. On essaye de vous tenir au courant le plus vite possible.
Voilà, bah on continuera de vous en parler aussi dans les prochaines émissions, puisque visiblement il va se passer pas mal de choses sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes ces prochains jours. On va finir cette émission maintenant par vous faire quelques annonces de prochaines mobilisations, de rendez-vous, de sorties de brochures. On va commencer peut-être par prochainement, là, dans les prochains jours, voilà la sortie de la brochure Plaie Commune réalisée...
Alors, la brochure dos au mur.
Ouais.
Réalisé par Plaie Commune.
Dos au mur, voilà. Dos au mur.
Là. Ouais, c'est un collectif qui a à Saint-Denis qui essaie de faire des analyses et par rapport à l'épuration sociale qui se passe à Saint-Denis, au plan de rénovation, à Saint-Denis et sur les villes alentours, Épinay, Villetaneuse, Argenteuil, etc. Toutes les villes qui font partie de Plaie Commune.
Voilà.
Pleine Commune.
Pleine Commune, pour le coup. Et puis, vous pourrez sûrement le trouver.
Je dis Argenteuil au lieu de Bervilliers, je me suis trompé.
Ah ouais.
Ça sera sur Internet, ouais, je pense.
Ça sera sur Internet. On essaiera de vous la mettre en lien sur notre site. Et puis, vous pourrez le trouver sûrement dans différents lieux. On va aussi annoncer le 27 octobre le concert de soutien, le concert de commémoration pour la mort de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005. Ça sera donc au 6B à Saint-Denis. Je vous lis vite fait l'appel. Zied et Bouna ne sont pas morts pour rien, comme ils n'ont pas été tués pour rien. Les morts impliquant la police sont loin d'être accidentelles. L'action de la police engendre des morts car ils sont formés à la haine de ceux qu'on leur présente comme des sous-hommes. Elle engendre des morts aussi car la police est nécessaire au maintien d'un ordre social violent et inégal. Ils tuent nos frères, ne les laissons pas enterrer leur mémoire. Rendons hommage à Bouna et à Zied et à toutes les personnes tuées par ou à cause de la police. Rendez-vous le 27 octobre, donc à partir de 17h, au 6B, 6-10 Quai de Seine. C'est à Saint-Denis et c'est accessible par le RERB, station Saint-Denis. Il y aura aussi un rendez-vous le même jour pour ça sera un concert de hip-hop. Hein, je vous ai même pas dit les noms des rappeurs qui passent parce que je les ai pas en face de moi en fait. Mais vous les communiquerez. En tout cas, vous pouvez les trouver sur le site Vivolé ou à toutes les victimes .samizdat.net. Voilà, qui s'occupe un peu. De la mobilisation. Il y a aussi le même jour, donc pour les amateurs de punk rock dans un autre style, un concert de soutien à Constroy et à la radio FPP. Ça sera donc le 27 octobre à partir de 19h. 5€ l'entrée. Donc Édouard Nénez et les Princes de Bretagne. Lipstick Vibrators et Stigmate pour les 20 ans de FPP. Ça sera au Turcu Bar, 147 rue d'Avron dans le 20e arrondissement de Paris métro. Avron, voilà, donc 5€ le 27 octobre à partir de 19h. On va annoncer aussi que le lendemain, le 28 octobre, le dimanche 28 octobre à 14h au métro Ménilmontant, à la sortie du métro, il y a Quartier Libre, donc un collectif qu'on vous a déjà présenté sur cette antenne, qui organise une redistribution de fringues gratuites ouverte à tous. Donc c'est des fringues qui ont été collectées dans le quartier, un peu pour dépasser les délires humanitaros, relou ambiant, et puis pour commencer à prendre en charge certaines questions. En tout cas, rendez-vous avec le collectif Quartier Libre à 14h au métro Ménilmontant le dimanche 28 octobre. Je crois que j'ai pas oublié d'infos. Hein. Non, ça va, je crois qu'on a tout annoncé. Nous, c'est au fond près du radiateur, www.aufondprèsduradiateur.fr pour le site internet. Pour télécharger les émissions. Sinon, il y a une adresse mail au fond près du radiateur @no-log.org. Et puis, on ira diffuser le vendredi à 7h du mat. Puis, dédicace.
N'hésitez pas à regarder les anciennes émissions sur le site internet et nous envoyer des infos par mail ou quoi. Ouais, les dédicaces ou quoi?
Ouais, les dédicaces d'abord à ceux de la ZAD, hein, garder la rage, garder le courage, tout ça.
Tous ceux qui luttent, tous ceux qui sont derrière les barreaux, à Meuto et Mado à la technique, yé à Matteo, Meuto et Sarah qui sont pas là.
Une grosse, grosse, grosse dédicace à tous les habitants de Beaubonne, voilà, tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont partis, même les anciens habitants qui se retrouvent maintenant en exil au large des côtes chinoises.
Ok, ok.
Ok, voilà, une grosse dédicace à mon chevalier d'or sans armure. Et puis, bah voilà, on finit sur cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi, 19h, 20h30 sur FPP 106.3 FM. Tout de suite, 0 Hebdo, gardez le contact parce qu'ils vont recevoir pas mal de coups de fil de Notre-Dame-des-Landes et de ce qui se passe sur place. Je pense qu'une large partie de leur émission sera consacrée à ça. Gardez le contact, 106.3 FM.
Salut, salut.